Nietzsche, le jeu des apparences. Donc nous sommes dans la continuation de ce cycle qui interroge les relations entre vérité et beauté. Et nous avons vu la question de la beauté comme manifestation sensible du vrai, chez Platon, chez saint Augustin. Nous avons vu peu à peu la question de la beauté devenir celle de l'art. Et d'ailleurs, à mesure que la question de que le lieu de la vérité se déplaçait lui-même. Si bien que l'artiste, qui, aux yeux de Platon, occupe un rang mineur dans les activités, puisqu'il est juste placé avant les sophistes, dans l'échelle des activités humaines, au septième rang, le sophiste étant au huitième et dernier rang, si bien que l'artiste, aux yeux des modernes, c'est-à-dire après le XVIIe siècle, voit son rang augmenter dans la hiérarchie et en particulier prendre la figure du génie. C'est ce que nous avons, entre autres, aperçu avec Kant. Si bien que la question même va se déplacer de l'art à l'artiste. La question du beau va se déplacer sur la question de l'art, va devenir une question d'esthétique. Et puis la question de l'art, on l'a vu avec Hegel commencer à se déplacer, et avec Kant, puisque c'est Kant qui invoque le génie, se déplacer du côté de l'artiste. Avec Nietzsche, que nous allons parcourir ce soir à grands pas, ce mouvement prend une forme augmentée et une force soudaine, car c'est l'artiste que Nietzsche célèbre. Et l'artiste, il le célèbre non pas comme celui qui va être l'interprète, le prophète de la vérité, celui qui éclairerait les peuples parce que son génie le relierait de manière intuitive et spontanée à un noyau de vérité qui échappe à la froide raison. Non, pas du tout. Si Nietzsche célèbre l'artiste, c'est comme menteur. C'est-à-dire que si l'art apparaît à Nietzsche la production humaine la plus importante et la plus valable, c'est qu'on peut en quelque sorte miser le rôle de l'artiste, faiseur d'apparence, trompeur, ironique, joueur, contre la vérité. Et c'est ce que je vais m'efforcer de comprendre avec vous ce soir. Nietzsche disant, pour le résumer, c'est une citation de ses propres mots, « Nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité. » Nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité. Comment un philosophe peut-il parvenir à une telle affirmation ? Alors évidemment, cette philosophie ne peut manquer de nous apparaître étrange par rapport au cheminement qui est ordinairement celui que la philosophie imprime aux esprits, qui est précisément la quête de la vérité. Et voilà qu'un penseur nous dit « Eh bien, la quête de la vérité doit être dépassée. » Et au fond, il y a une supériorité de l'apparence, d'où le titre de mon propos ce soir, sur la volonté d'aller derrière les apparences, qui est la vérité. La vérité, c'est la volonté d'aller derrière les apparences. La volonté de déterminer quelque chose de stable et de cohérent sous des apparences fugaces, souvent contradictoires. Et donc, le quêteur de vérité, il essaye, selon la formule de Platon, de sauver les apparences. « Sozein ta phainomena ». Car les apparences sont, je le disais, passagères. Elles sont le lieu de contradictions, donc le soleil nous paraît prêt, le fleuve s'enfuit, et ce fleuve qui s'enfuit, je l'appelle la Saône, le Rhône plutôt, parce que la Saône est une rivière, le Rhône est un fleuve. Donc ce fleuve qui s'enfuit, je l'appelle le Rhône, et en l'appelant le Rhône, je lui donne une identité. Je prétends figer sa fugacité. Et où est ce Rhône que je nomme alors même que l'eau ne cesse de s'écouler? Est-ce que la volonté de sauver les apparences n'est pas au fond l'illusion la plus profonde? Et s'il y avait une pensée qui est de la valeur, je reviendrai sur ce mot, ça serait celle qui pourrait justement rentrer dans ce devenir, ne pas chercher à se sauver du devenir, mais s'abandonner au devenir. Non pas chercher ce qui est fixe, mais se noyer dans ce qui est fugace et se laisser prendre volontiers à ce jeu des apparences. Il faut donc renoncer, si l'on veut suivre l'affirmation de Nietzsche selon laquelle nous avons l'art pour ne pas mourir de vérité, il faut donc renoncer à la volonté de sauver les apparences par la vérité, renoncer donc à la quête d'une justification. Parce que si nous cherchons la vérité, c'est que nous nous demandons, mais qu'est-ce qui justifie ces événements qui semblent si désordonnés, si contradictoires? Justifie-toi, dit-on aux autres. Mais, et donc toute la philosophie est née de cette volonté de ne pas se contredire. On le voit bien chez Platon. Et de la volonté donc d'être en mesure de justifier ce que l'on dit, non seulement de le justifier, mais de le justifier, et c'est l'idée de raison pour tous, c'est-à-dire de le justifier d'une manière qui tend à l'universalité, alors que chaque sujet est non seulement passager, mais singulier. Chaque sujet a un point de vue dont on pourrait se dire qu'après tout, il est inconciliable avec le point de vue des autres. Donc celui qui pose la question de la vérité, il pose la question donc de l'identité, de la justification et de l'universalité. Quelque chose qui soit valable pour tous. À cette universalité, il faudrait opposer, au contraire, et c'est ce que fera Nietzsche, une affirmation qui soit insoucieuse d'avoir à se justifier, insoucieuse de son universalité, qui à la rigueur peut même revendiquer un certain caractère aristocratique, qui n'a pas besoin d'être compris de tout le monde. Il n'est pas sûr que l'affirmation soit faite pour tout le monde. Et après tout, si j'ai un point de vue dominant, eh bien, que m'importe que mon affirmation soit comprise de tous. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à en rendre raison. Je n'ai pas à passer, donc, de l'apparence à la réalité. Évidemment, si on efface de nos soucis cette volonté de justification, d'identité, d'universalité qui se concrétise dans l'idée de vérité, alors il ne reste en effet plus que des points de vue. C'est ce qu'on appelle le perspectivisme. Et entre les points de vue, eh bien, il n'existe que des rapports de force, puisque ces points de vue sont tels qu'il serait bien vain de les mettre en conversation, de les réduire à discuter l'un l'autre, si bien que l'affirmation la plus importante de Nietzsche, si on veut comprendre sa philosophie de l'art telle que je vais essayer de l'expliquer ce soir, c'est que ça n'est pas la valeur de ce que dit quelqu'un qui est décisive, c'est la valeur de ce qu'il est. C'est la valeur de son point de vue. Il y a des points de vue dominants, il y a des points de vue réduits, Et donc c'est la valeur de l'homme qui est décisive. La question nietzschéenne par excellence est la question qui est devenue familière à tous. Elle ne vous surprendra pas, cette question, peut-être qu'ignoriez-vous qu'elle venait de Nietzsche. C'est non plus la question « quoi », mais la question « qui ». C'est-à-dire que Nietzsche ne dit pas « qu'est-ce que la vérité ?», ne dit pas « qu'est-ce que l'être ?», mais « qui est celui qui parle de vérité ?»« Qui est celui qui parle d'être ?» Nietzsche ne dit pas « qu'est-ce que Dieu ? Dieu existe-t-il ?» Mais qui est celui qui parle de Dieu? C'est ce qu'on appelle la philosophie du soupçon. Passer de la question « quoi » à la question « qui ». Et cette question « qui » suppose que la validité de l'énoncé, pour autant qu'il y ait un énoncé, suppose que la validité donc soit liée à la valeur de la personne. Ceci est dit à grands traits, je veux bien revenir dessus au moment de l'échange si je n'ai pas été assez clair, mais ça me semblait nécessaire à titre d'introduction. Et on peut terminer donc cette introduction par la grande équation nietzschéenne qui consiste à dire que l'être, c'est la valeur, être égale valeur. C'est-à-dire que on ne sait pas quel est l'être de Dieu, mais quelle est la valeur de l'idée de Dieu, ou plutôt quelle est la valeur de celui qui parle de Dieu. On ne sait pas quelle est la valeur de la démocratie, mais quelle est la valeur de celui qui parle de la démocratie. Enfin, vous pouvez suivre le raisonnement. Je vous signale que c'est notre raisonnement à tous, hein, puisque maintenant, quand on parle de quelque chose, on dit « Monsieur A.S., étudiant, nous a déclaré, qu'est-ce qu'on en a à faire que Monsieur A.S. soit étudiant ?» On veut savoir si sa phrase est juste ou fausse. Non, maintenant on nous dit, c'est monsieur A.S. étudiant. C'est-à-dire, c'est qui l'a dit, et non pas ce qu'il dit. Nous sommes tous rentrés dans cette logique. Être égale valeur, et quelle est la valeur d'un homme? Alors là, je reviendrai dessus si vous le souhaitez aussi, la valeur d'un homme, c'est son vouloir. Son vouloir au sens où ce vouloir est son élan. Ce n'est pas un vouloir au sens, n'entendez pas le mot vouloir au sens d'une intention, d'une volition qui serait formulée pour un projet. Le vouloir chez Nietzsche, c'est l'élan. La volonté de puissance, Wille zur Macht, n'est pas la volonté d'être puissant, parce que la volonté d'être puissant, c'est celle du faible. Mais la volonté de puissance, la volonté en vue de la puissance, c'est la volonté qui est déploiement de la puissance. Et qui fait qu'il y a donc une topique des points de vue qui viennent de la capacité qu'a un... Alors on ne dira pas un sujet, qu'a une volonté à... s'auto-déployer. C'est hugolien, je suis une force qui va. Et cette force va jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle, et cette force, elle s'exerce dans le mouvement par lequel elle surmonte quelque chose. L'équation est donc être égale valeur, valeur égale vouloir. Que veut celui qui parle de? Alors c'est ce qui autorise Nietzsche à dire « Ma philosophie est un platonisme renversé. » Puisque Platon, qui a quand même fondé la philosophie occidentale, l'a fondée justement sur la volonté de quitter les apparences, de sortir des apparences, de sortir du conflit des forces. Sortir des apparences, c'est sortir de la caverne. Tout le monde connaît vaguement l'allégorie de la caverne. Sortir des rapports de force, c'est rentrer dans le domaine de la raison et du dialogue où peuvent s'échanger des arguments, y compris chez Platon, avec des esclaves, puisqu'un des principaux interlocuteurs de Socrate est un esclave. Et ce qui justifie donc que Platon place l'artiste comme justement faiseur d'apparence, marionnettiste, dans les derniers rangs des activités humaines, puisque l'artiste en rajoute au monde des apparences, alors qu'il s'agit de sortir du monde des apparences. Eh bien, voilà exactement ce que Nietzsche veut renverser. Ma philosophie est un platonisme renversé. L'exposé comportera ainsi trois moments. Le premier moment, c'est, on peut l'appeler une métaphysique d'artiste. L'expression est de Nietzsche. J'élabore une métaphysique d'artiste. Le deuxième moment nous conduira à revoir la distinction entre l'apollinien et le dionysiaque, qui est la distinction matrice de la pensée esthétique de Nietzsche. Et je terminerai par la fonction vitale de l'art. Puisque si être égale valeur égale vouloir, au fond tout se ramène à l'auto-affirmation de la vie, et cette auto-affirmation de la vie est ce à quoi l'art contribue ou contribuerait aux yeux de Nietzsche, si bien que l'art a chez Nietzsche une fonction hygiénique, enfin une fonction physiologique, et qu'il évalue, ça sera la dernière partie, et alors c'est un antiplatonisme radical, puisqu'il évalue un artiste à sa santé, rêvant de voir arriver un philosophe médecin, pressentant ce que serait un philosophe médecin, et qui, au lieu de faire une philosophie, ferait une symptomatologie. Et essayerait de déceler donc les symptômes derrière telle ou telle forme d'art. Premièrement, une métaphysique d'artiste. Vous l'avez compris, si la métaphysique est l'effort de justification, eh bien la pensée de Nietzsche commence par affirmer que le monde n'a pas besoin de justification. Car vouloir qu'il soit justifié, c'est penser qu'il n'est pas innocent. Vouloir justifier le devenir, c'est penser que le devenir est une forme décadente de l'être, une forme provisoire de l'être, et qu'il faudrait donc remonter du devenir à la stabilité, du devenir à l'identité, pour parvenir à une justification. Et donc, à la différence des philosophes, à la différence des théologiens, à la différence des croyants, Nietzsche veut affirmer l'innocence du devenir, l'innocence de cette vie. Et l'innocence de cette vie fait qu'il n'y a aucune nécessité de lui demander les comptes. Et donc, par là même, aucune nécessité d'aller au-delà des apparences. C'est ce que l'on peut lire dans le premier texte que je vous propose ce soir, qui est une préface que Nietzsche a faite a posteriori à sa première grande œuvre, qui est La naissance de la tragédie. Donc il commente sa propre œuvre, c'est plus sûr. Déjà dans la préface à Richard Wagner, c'est l'art, et non pas la morale, qui est présentée comme l'activité essentiellement métaphysique. Au cours de ce livre, se reproduit à différentes reprises cette provocante proposition que l'existence du monde ne peut se justifier que comme phénomène esthétique. Et il faut donner au mot phénomène sa portée philosophique, c'est-à-dire ta phénoména, les apparences. Phénomène, en grec, ça signifie l'apparence. En allemand, le mot est ambigu, parce que c'est Erscheinung qui peut être ou apparence ou apparition. Mais ici, donc, c'est la volonté de dire donc que l'existence du monde ne peut se justifier que comme apparence esthétique. En effet, ce livre, donc le sien, La naissance de la tragédie, sur lequel nous reviendrons, En effet, ce livre ne reconnaît derrière tout devenir, tout advenir, qu'une pensée et une arrière-pensée d'artiste. Un dieu, si l'on veut, mais à coup sûr, un dieu artiste, absolument dénué de scrupules et de morale, à qui bâtir comme détruire, le bien et le mal procurent le même plaisir, une sorte de Shiva qui distribue de la même main la construction et la destruction. Et le même sentiment de toute puissance, qui se débarrasse en fabriquant des mondes du tourment de sa plénitude et de son excès de plénitude, qui se délivre de la souffrance des contraires accumulés en lui. Le monde, libération à chaque instant obtenue de Dieu, perpétuellement et à tout instant consommée. Donc vous voyez, c'est l'image du devenir vorace, de la force qui va, je suis une force qui va. Tout ça, il le tient de Schopenhauer, on reviendra dessus si vous le souhaitez. Le monde, libération à chaque instant obtenue de Dieu, perpétuellement et à tout instant consommée, en tant que vision éternellement changeante, éternellement nouvelle, de celui qui supporte les plus grandes souffrances, les contraires les plus opposés, les plus extrêmes contradictions. Si au métaphysicien il semble grave de se contredire, l'artiste peut exhiber ses contradictions. Au contraire même, il en joue. Eh oui, je me contredis. Sympa. Il peut même provoquer par ses contradictions. Alors que le pauvre gars qui essaye de réfléchir, il essaye de ne pas être contradictoire. C'est plus sympa d'être ironique et de provoquer par ses contradictions. Enfin bon. Et qui ne sait se libérer que dans l'apparence. Toute cette métaphysique d'artiste peut être traitée d'arbitraire, de vaine, de fantasmagorique. Autrement dit, si vous me demandez de me justifier, je vous emmerde. Vous pouvez toujours dire que c'est vain, fantasmagorique, allez-y. L'essentiel est qu'elle trahit dès l'abord un esprit qui saura prendre un jour tous les risques pour se défendre contre l'interprétation et la signification morale de l'existence. En vérité, rien n'est aussi complètement opposé à l'interprétation, à la justification purement esthétique du monde exposé ici, que la doctrine chrétienne, qui n'est et ne veut être que morale. Et avec ses critères absolus, par exemple avec sa véracité de Dieu, relègue l'art, tout art, dans l'empire du mensonge, c'est-à-dire le nie, le condamne, le maudit. Derrière une semblable façon de penser et d'évaluer, qui pour peu qu'elle soit authentique, se doit d'être hostile à l'art, je perçus aussi de tout temps l'hostilité à la vie. La répugnance rageuse et vindicative pour la vie même, car toute vie repose sur l'apparence, l'art, l'illusion, l'illusion d'optique, nécessité du perspectivisme et de l'erreur. Vous avez un excellent résumé de ce qu'est la métaphysique d'artiste, donc d'une sorte de force qui va faisant alterner la destruction et la construction, faisant alterner le oui et le non, faisant alterner le bien et le mal, assumant sa souffrance dans les déchirements tragiques, et célébrant ainsi la vie qui va et qui charrie toutes ses apparences et toutes ses contradictions, insoucieuse d'avoir à rendre raison d'elle-même. Cela suppose donc d'abolir la différence entre apparence et réalité, si bien que dans cette perspective, c'est l'ivresse et le rêve qui sont les manifestations les plus vivantes. Et l'ivresse et le rêve ont en commun, justement, d'être exonérés du principe de contradiction, d'être exonérés du principe d'identité. Tout d'un coup, ma concierge se transforme en crocodile. C'est pas trop étonnant. Dans le rêve. Et c'est de telle sorte que Nietzsche dit « Le rêve et l'ivresse sont les formes immédiates de l'art ». Qu'est-ce que ça veut dire que le rêve et l'ivresse sont les formes immédiates de l'art ? Ça veut dire que la forme ultime de l'art, ça n'est pas l'œuvre d'art. Ce n'est pas le tableau, ce n'est pas la musique, ce n'est pas la représentation théâtrale. La forme de l'art, c'est l'ivresse. Ou le rêve. Le rêve de l'artiste. Peut-être que les artistes ont des rêves plus amples que les autres. Mais au fond, nous sommes tous artistes en tant que nous rêvons et en tant que nous nous enivrons. Enivrez-vous, c'est ce que disait Baudelaire. Parce que en tant que nous rêvons et en tant que nous nous enivrons, nous allons au fond de l'élan de la vie, au fond du mouvement de la vie, insoucieux de justification, insoucieux d'identité et du principe de contradiction. Par exemple, dans Le Gai Savoir, on peut lire au aphorisme 54 du livre premier. Je me suis réveillé soudain au milieu de ce rêve, mais seulement pour avoir conscience que je rêvais tout à l'heure et qu'il faut que je continue à rêver pour ne pas périr. Tout comme il faut que le somnambule continue à rêver pour ne pas tomber. Qu'est désormais pour moi l'apparence ? Ça n'est certainement pas pour moi l'opposé d'un être. Que puis-je énoncer de cet être si ce n'est les attributs de mon apparence ? L'apparence est pour moi la vie, alors c'est redondant, l'apparence est pour moi la vie et l'action elle-même qui dans son ironie, pour ceux qui étaient là à la soirée à la rencontre sur Hegel, on avait terminé sur Hegel en disant « Hegel nous annonce la fin de l'art ». Hegel nous annonce la fin de l'art dans le rire. Il est là. Et donc la philosophie de Nietzsche est au fond l'application involontaire de ce que Hegel anticipait en disant ben, « l'art va finir dans le comique ». Et on l'a ici, je relis. « L'apparence est pour moi la vie et l'action elle-même qui, dans son ironie, va jusqu'à me faire sentir qu'il y a là apparence et danse, et rien de plus. Que parmi ces rêveurs, moi aussi, moi qui cherche la connaissance, je danse ma propre danse, que le connaissant est un moyen pour prolonger la danse, et qu'en raison de cela, il fait partie des maîtres de cérémonie de la vie, et que la sublime conséquence et le lien de toutes les connaissances sont et seront peut-être le moyen suprême d'assurer l'universalité de la rêverie et l'entente de tous les rêveurs entre eux, rêveurs de tout pays, unissez-vous, et par cela même d'entretenir la durée du rêve. S'il y a une fonction de l'art, ça serait d'entretenir la durée du rêve, mais le rêve est la forme immédiate de l'art. Nous sommes tous artistes en tant que nous rêvons. De même que l'ivresse, donc, est la forme immédiate de l'art. On peut encore ouvrir d'autres pages de Nietzsche. De toute façon, il dit toujours la même chose. Donc on peut pratiquement l'ouvrir au hasard. Ah non, celle-ci, non. Elle est moins pertinente. J'évoquais le rire. Donc, Nietzsche, dans Zarathoustra, parlera du rire sacré de la beauté. Dans la mesure où, précisément, le rire est, la réponse à l'absurde, non pas la réponse à l'absurde, le constat de l'absurde. Le rire, c'est se mettre devant la contradiction et donc essayer d'en faire un élan vital, une réaction vitale qui serait donc celle du frisson et du rire, qui devient sacré en ce sens qu'il est sacrilège. Si le rire est sacré, c'est parce qu'il est porteur d'un sacrilège et qu'il a en lui cette force de transgression qui permet de réduire à néant toutes les idoles. devant l'idole, qu'est-ce que je ferais? Je rirais. Et lorsque Nietzsche, dans un texte célèbre, dit que Dieu est mort, quelques pages auparavant, il dit que les dieux sont morts de rire devant l'absurdité des croyants. Les croyants sont tellement absurdes que les dieux en sont morts de rire. C'est pourquoi il faut revenir à l'idée de puissance qu'on évoque à travers l'idée de volonté de puissance. Donc, vous le voyez ici, la puissance ne sera pas une capacité de construire, une capacité de mettre en ordre. Ça ne sera pas celle d'un dieu qui met en ordre un cosmos, qui surmonte un chaos. L'expression de la puissance la plus forte chez Nietzsche, c'est celle de l'enfant. Parce que l'enfant, il est précisément dans l'immédiateté, il est dans la pure acceptation du moment présent, proche de la plante, et les activités de l'enfant, c'est le jeu. Si l'art peut être compris, c'est comme jeu. Dans la mesure où le jeu, c'est précisément ce qui fait alterner les apparences et ce qui rend indifférente l'alternative du vrai et du faux, du bien et du mal, et même, sauf c'est le mauvais joueur, l'alternative du perdre et du gagner. Le mauvais joueur, c'est celui qui croit que l'alternative perdre et gagner est importante. Alors que le jeu manifeste précisément que toute alternative à laquelle nous pouvons nous attacher, que ce soit perdre et gagner, que ce soit apparence-réalité, que ce soit bien et mal, vole en éclats devant le jeu. Et donc la volonté la plus puissante ne se verra pas dans une espèce de Robocop tel qu'on peut l'imaginer dans un nietzschéisme un peu benêt, mais la volonté la plus puissante est celle que l'on verra dans le babil de l'enfant et dans les jeux de l'enfant. Lorsque l'enfant formule un langage qui échappe aux règles de la grammaire et lorsque il est dans la pure spontanéité, dans la fête. On peut encore dire, avec Nietzsche, si l'on comprend bien donc, que la puissance n'est pas la force organisatrice, mais l'approbation de la vie, que la beauté surgit, comme le dit très joliment Nietzsche, lorsque il y a justement conversion de la puissance en grâce. Les moments où nous éprouvons dans une activité esthétique un sentiment de plénitude et un sentiment que l'on appelle de grâce, c'est précisément le moment où la puissance se fait oublier et rejoint la spontanéité la plus simple. La grâce d'une danseuse, c'est de savoir faire oublier les exercices et sa musculation pourtant imposante, que l'on ait l'impression que son geste rejoint la spontanéité vitale et que donc la puissance a condescendu, une fois de plus, dans ce moment de grâce à l'enfance, au fond. Je vous lis ce passage qui est dans « Ainsi parlait Zarathoustra ». Le bras passé sur la tête, c'est ainsi que le héros devrait se reposer, c'est ainsi qu'il devrait surmonter son repos. Mais c'est pour le héros que la beauté est la chose la plus difficile, car la beauté est insaisissable pour toute volonté violente. Tout geste, c'est ce que disait Merleau-Ponty, un geste volontaire est toujours un geste raté. Un geste volontaire fait sentir la mécanique. Et donc pour que le geste ait une grâce, il faut qu'on oublie justement la puissance mécanique qu'il peut y avoir derrière. C'est pour le héros donc que la beauté est la chose la plus difficile. La beauté est insaisissable pour toute volonté violente. Un peu plus, un peu moins, c'est peu de choses et c'est beaucoup, et c'est même l'essentiel. Rester les muscles inactifs et la volonté déhanchée, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour vous, homme sublime. Quand la puissance se fait grâce, quand elle descend dans le visible, j'appelle cela beauté dans une telle condescendance. Je n'exige la beauté de personne autant que de toi qui es puissant. Que ta bonté soit ta dernière victoire sur toi-même. Donc, ça évite les malentendus sur la volonté de puissance et ça permet donc de comprendre comment cette métaphysique d'artiste est donc une métaphysique qui veut épouser la vie dans son approbation la plus forte, telle qu'on l'aperçoit donc dans le jeu, dans la danse et dans la grâce de l'enfant. Ces intuitions sont apparues dès la première œuvre de Nietzsche, qui est au fond, comme pour beaucoup d'auteurs, la première œuvre est celle qui donne le pochoir que toutes les autres vont recopier. Et donc cette première œuvre, c'est La naissance de la tragédie, que vous pouvez lire aisément. Et dans laquelle donc Nietzsche distingue l'apollinien et le dionysiaque, c'est-à-dire qu'il distingue deux origines de l'art, ou plutôt deux origines de la vie de l'artiste, vous voyez, quand il dit s'approfondira, une origine que l'on pourrait référer à Apollon, le dieu de la lumière, le dieu de la mesure, le dieu de l'équilibre, de la maîtrise, de la forme. Et à Dionysos, le dieu de l'ivresse, le dieu du désordre, le dieu de la démesure. Et aux yeux de Nietzsche, tout se passe comme si la vie était un perpétuel dialogue d'Apollon et de Dionysos, d'une tendance à l'ordre et une tendance au désordre. Ou plutôt, pour éviter de trop simplifier l'idée, je disais que le rêve et l'ivresse sont des formes immédiates et naturelles de l'artiste. On pourrait référer Apollon au rêve, enfin Nietzsche réfère Apollon au rêve et Dionysos à l'ivresse. Apollon, je le disais, c'est la manifestation dans la belle apparence. C'est ce que dit le deuxième texte de votre feuille, qui est donc extrait de La naissance de la tragédie. C'est dans le rêve que, suivant l'expression de Lucrèce, les splendides images des dieux se manifestèrent pour la première fois à l'âme des hommes. C'est dans le rêve que le grand sculpteur perçut les proportions divines de créatures surhumaines et le poète Hélène, interrogé sur les secrets de la procréation poétique, eut rappelé lui aussi le rôle du rêve et prononcé les mêmes préceptes que Hans Sachs dans Les Maîtres Chanteurs. Car à l'époque, il fait encore référence à Wagner, on en parlera, qui était à l'époque son ami, avec lequel la rupture sera d'une violence inouïe, du moins dans la bouche de Nietzsche. Wagner s'en fichait un peu. Mais donc là, dans La naissance de la tragédie, donc il fait encore référence à Wagner, dans lequel il voyait le génie absolu, celui qui justement accomplirait la parfaite alliance de l'apollinien et du dionysiaque dans une œuvre qui allie le rêve et l'ivresse. Alors, que dit Hans Sachs dans Les Maîtres Chanteurs ? a mis l'ouvrage du poète est justement de noter et d'interpréter ses rêves. Croyez-moi, l'illusion la plus vraie de l'homme s'épanouit pour lui dans le rêve. Tout art des vers et du poète n'est que l'interprétation des rêves de vérité. L'apparence pleine de beauté des mondes du rêve, dans la production desquels tout homme est un artiste complet, tout homme, est la condition préalable de tout art plastique et certainement aussi, comme nous le verrons, d'une moitié essentielle de la poésie. Nous éprouvons de la jouissance à la compréhension immédiate de la forme. Toutes les formes nous parlent, rien n'est indifférent, rien n'est inutile. Et pourtant, la vie la plus intense de cette réalité du rêve nous laisse encore le sentiment obscur qu'elle n'est qu'une apparence. Et voilà pourquoi le sentiment de la beauté est inséparable d'une angoisse. Mais justement, la jouissance de la beauté, le rire est inséparable de l'angoisse. Aussi. C'est même une des expressions les plus fortes de l'angoisse que le rire. Et si bien que l'expérience de la beauté, c'est cet art de jouir même de l'angoisse au moment même où l'on devine que eh bien, ceci est une apparence. Il faut continuer de l'affirmer comme une apparence et sans chercher à s'en évader, en acceptant, donc en disant amen à cette apparence. Dionysos, c'est donc, vous le savez, le dieu de l'ivresse, celui de l'informe, où précisément l'angoisse et le chaos vont pouvoir monter comme la lave. Et en particulier donc, le monde de l'ivresse, c'est celui de la perte du sentiment d'individuation. Il tient cette idée de Schopenhauer. Si nous souffrons de ce devenir de la vie, si nous souffrons de ce flux qui va, si nous souffrons dans ce flux qui va, c'est parce que nous sommes des individus emportés par ce flux. Et pour se délivrer de cette souffrance, il faudrait se délivrer de l'individuation. C'est ce que fait par exemple la fête. Tous ensemble, ouais. C'est ce que fait l'ivresse, qui nous délivre de l'individuation, qui nous désinhibe, comme on dit maintenant, et nous évite d'être... Les gens qui ont un peu trop de conscience s'emmerdent dans les fêtes, j'en connais. Et donc, pour ne pas s'embêter, ben, faut arriver à se saouler, quoi. Et perdre par là même le sentiment de l'individuation qui suppose qu'on a un peu trop de quant à soi et que l'on répugne à se livrer à l'étourdissement. Et donc c'est ce que dit le troisième texte. Bon, ça fait référence aux lignes qui précèdent. À la même page, Schopenhauer nous a dépeint l'épouvantable horreur qui saisit l'homme, dérouté soudain par les formes connaissables des phénomènes, lorsque le principe de causalité, dans une de ses manifestations quelconques, semble souffrir une exception. Si, outre cette horreur, nous considérons le ravissement délicieux qui, devant cet effondrement du principe d'individuation, s'élève du plus profond de l'homme, du plus profond de la nature elle-même, alors nous commençons à entrevoir en quoi consiste l'état dionysiaque, que nous comprendrons mieux encore par l'analogie de l'ivresse. C'est sous l'influence du breuvage narcotique que tous les hommes et tous les peuples primitifs ont chanté dans leurs hymnes, ou bien par la force du renouveau printanier, qui est une forme d'ivresse, pénétrant voluptueusement la nature entière, que s'éveillent ces émotions dionysiennes qui entraînent dans leur essor la subjectivité jusqu'à l'anéantir en un complet oubli de soi. Un créateur qui coïnciderait avec l'oubli de soi. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Un créateur qui serait un élan qui ne garderait aucune conscience de ce qu'il fait. Alors c'est la raison pour laquelle Nietzsche affirme la primauté de la musique. Et c'est la raison pour laquelle il attendait beaucoup de Wagner. Parce que la musique, à la différence des arts plastiques, est plus proche des formes immédiates de l'art, plus proche de l'ivresse. La musique a quelque chose qui peut nous emporter, qui peut nous étourdir, qui peut nous faire rentrer dans l'ivresse. On rentre difficilement dans l'ivresse devant une statue ou un tableau. Il faut qu'il y ait une certaine forme de devenir pour qu'il y ait ivresse. Et puis, il faut qu'il y ait une forme d'enveloppement. Les arts plastiques nous mettent en face. Ils ont donc une dimension d'objectivation. Et c'est pourquoi Hegel les trouvait supérieurs. Alors que la musique, elle ne nous met pas en face, elle nous immerge, on peut s'imaginer, et surtout celle de Wagner, qu'on est plongé dedans, qu'on est enveloppé de cette musique qui proviendrait de toutes parts. Et ce que Nietzsche attendait de son ami Wagner, c'est la réalisation d'un art total. La deuxième œuvre de Nietzsche, après La naissance de la tragédie, c'est Wagner à Bayreuth. Et puisque Nietzsche était ami de Wagner, et au moment où Wagner allait créer Bayreuth. Et ce que Nietzsche espérait de Bayreuth, c'est la création d'un art total, qui soit en même temps théâtre, chant, musique, art plastique, etc. Parce que la malédiction de l'art, c'est qu'il ne s'adresse qu'à un ou deux sens, la vue, l'ouïe. Certains disent que la cuisine est un art, laissons-les. Le goût, le toucher, l'odorat, il faudrait un art accessible à tous les sens. C'est ce que Rimbaud appelle dans Alchimie du Verbe. Je devins un opéra fabuleux, dit-il. Je rêvais d'un art accessible à tous les sens. Vous vous rappelez les voyelles de Rimbaud ? A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. Les voyelles de Rimbaud, c'est la recherche d'un art total, où il y a en même temps des sons, des couleurs, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, disait Baudelaire. Mais quel est l'art total ? Il n'y en a qu'un, c'est la vie. Parce que ce que je perçois par tous les sens, c'est la vie. Il n'y a que la vie que je perçois par tous les sens. Tout le reste est lié à une abstraction, c'est-à-dire une séparation. Et donc tout art est abstrait en tant qu'il extrait une forme de perception. Un art qui serait total serait identique à la vie. Et c'est ce que Nietzsche attendait de Bayreuth. Et c'est pour ça qu'il a placé donc tous ses espoirs dans, Wagner. Dans Wagner à Bayreuth, justement, Nietzsche écrit « La musique transmet immédiatement les émotions profondes des personnages du drame aux âmes des auditeurs, qui perçoivent dès lors, dans les gestes de ces mêmes personnages, la première manifestation visible de ces mouvements internes, puis dans la langue, une seconde apparition plus pâle de ces mêmes mouvements, traduits dans un vouloir plus conscient. Tous ces effets se produisent simultanément, sans se nuire mutuellement le moins du monde, et imposent à celui devant qui se déroule un tel drame une compréhension et une connivence toutes nouvelles, comme si ses sens s'étaient soudain spiritualisés et son esprit sensibilisé. » Ce qui correspond donc à l'expérience de l'ivresse. Et donc, vous savez que Nietzsche lui-même s'est voulu compositeur avec des déconvenues qui ne sont pas pour rien, sans doute, d'ailleurs, dans l'inimitié née avec Wagner, qui lui a fait sentir qu'il ferait mieux de faire de la philo et de rester philologue, et qu'il ne ferait pas trop tâter de musique, donc c'est un peu vexant. Mais il a cherché toute sa vie, le pauvre Nietzsche, à écrire de la musique sans grand succès. Je ne sais plus quel est le musicien qui était justement... Ben c'était le chef d'orchestre de Bayreuth, qui s'appelait Von Bülow, je crois, qui lui a envoyé une lettre en disant « Arrêtez de faire de la musique, votre musique est un véritable attentat au bon sens. » Mais il a continué. Ce qui est fait que l'œuvre de Nietzsche est quand même marquée par une certaine amertume de n'avoir pas été musicien. Puis amertume qu'il retourne contre Wagner, on verra peut-être comment, et qui lui fait à la fin préférer Bizet et Offenbach. Il voyait dans Carmen l'œuvre dionysiaque par excellence. Évidemment, cette conception de l'art, comme ivresse, comme donc cette conception apollinienne et dionysiaque de l'art, qui est contemporaine donc pour Nietzsche, alors qui explique pour Nietzsche la naissance de la tragédie, hein, puisque la naissance de la tragédie, c'est justement ce qui naît de l'angoisse de l'injustification de la vie. Et cette angoisse de l'injustification de la vie, elle ne peut que se dire poétiquement. Et elle se dit poétiquement dans les tentatives orgiaques ou oniriques qui essayeront donc d'assumer cette injustification de la vie. Donc la musique est à l'origine de la tragédie comme montée de l'acceptation de l'injustification de la vie. Et ça culmine dans Wagner, du moins à l'époque. Alors évidemment, ça explique, entre autres, l'hostilité radicale de Nietzsche à quelqu'un comme Socrate. Nietzsche n'a pas de mots assez durs pour Socrate, l'injure la plus forte étant ce juif de Socrate, ce qui est vraiment l'injure la pire qu'on puisse placer dans la bouche de Nietzsche. Et pourquoi Socrate est-il un juif tombé dans le monde grec? Parce que c'est le type qui n'a absolument pas le tempérament artistique, c'est le gars qui va chercher la vérité, qui va chercher la justification, qui va ratiociner à n'en plus finir, qui va discutailler avec tout le monde. C'est un roturier, il est laid. Et il s'est mis à faire de la musique après sa condamnation à mort. Tout d'un coup, vous le savez, une fois qu'il a été condamné à mort, Socrate dit « Le Dieu m'a dit que je devais faire de ma vie une œuvre d'art, musique. » Alors le mot « musique » en grec est ambigu, donc il signifie « ou musique ou œuvre d'art ». Donc vous pouvez traduire « Le Dieu m'a dit que je devais faire de ma vie une musique ou je devais faire de ma vie une œuvre d'art ». Et il s'est mis, le pauvre Socrate, pendant les quelques jours qui lui restaient, à apprendre à jouer de la cithare. Et oh, horreur, en jouant de la cithare, qui est en plus l'instrument d'Apollon. Ça aurait été de la flûte encore, ça aurait été orgiaque, mais la cithare, c'est vraiment l'instrument d'Apollon. Et en plus, avec cette cithare, il accompagnait horreur des poèmes d'Ésope. Alors les poèmes d'Ésope sont moralisateurs. Et pourquoi Socrate est-il un roturier amusical? Parce qu'il est essentiellement optimiste. La dialectique, c'est la forme radicale de l'optimisme. Parce que le dialecticien, c'est celui qui se dit que la contradiction sera toujours surmontable. Il se dit, on ne va pas en rester à la contradiction, on va continuer à discuter un peu. Et cet optimisme est abject aux yeux du tragédien que se veut être Nietzsche. Plutôt que de surmonter la contradiction, mieux vaudrait y rester. Et justement, y rester par le rire, par l'ironie, par la fête, plutôt que par la ratiocination indéfinie de ce lait et roturier Socrate, amusical Socrate. Il y a donc des hommes qui valent plus que d'autres. Ce sera la dernière partie. Il y a des gens qui ont l'âme roturière, puis il y a des gens qui sont en mesure de se livrer à cette ivresse tragique, qui sont donc la nouvelle figure du génie, tel qu'on l'a aperçu à sa naissance dans les textes de Kant. un homme qui vaut plus pour Nietzsche, c'est un homme dont l'affirmation de la vie est plus puissante. Mais il faut vous rappeler en quel sens, hein ? Pas au sens de la force d'appropriation. C'est-à-dire que les formes de vie les plus puissantes sont celles qui portent en elles la plus grande approbation. Socrate, Platon sont aux yeux de Nietzsche des porteurs de négation puisqu'ils cherchent à aller au-delà de la vie. Et donc la vraie distinction des forts et des faibles, ce n'est pas une distinction dynamique, ce n'est pas une distinction de muscles, de capacité de détruire ou de construire. Non, la vraie distinction des forts et des faibles, c'est la capacité d'affirmation ou de nier. Est faible celui qui se nourrit de négation. Est fort celui qui est capable de prononcer un grand amen à la vie. La mort fatigue, l'amour du destin sera le dernier mot de Nietzsche. Si bien que cette affirmation de la vie, elle est aux yeux de Nietzsche, et plus il avance dans son œuvre, plus il va loin dans cette affirmation, plus il est lui-même malade, d'ailleurs, c'est ce qui est beau, plus il est lui-même malade de manière pitoyable, plus il va loin dans cette affirmation que la vraie valeur de la vie, c'est la santé, et qu'au fond, on pourrait évaluer les philosophes, évaluer les artistes à leur capacité de fortifier la santé, d'affirmer la santé. Si les formes traduisent des forces, au fond c'est ce que ça veut dire, hein, les formes traduisent des forces, si les formes traduisent des forces, c'est qu'elles ont une origine vitale, donc, et même physiologique. Et c'est pourquoi dans ses dernières œuvres, Nietzsche dira « Je n'ai plus d'esthétique, je n'ai plus qu'une physiologie. » Par exemple, alors on se doute qu'après la brouille, quand Wagner l'a trahi en faisant une musique idéaliste, en célébrant ce qui est un comble, la chasteté de Parsifal, vous vous rendez compte, un artiste qui célèbre la chasteté. Mais c'est pas très étonnant, dit Nietzsche, car les artistes sont naturellement fourbes et menteurs. Donc finalement, que Wagner célèbre la chasteté, ça n'est que jamais qu'une fourberie de plus. Et par exemple, dans un fragment concernant la musique, je ne suis pas assez heureux, pas assez en bonne santé pour toute cette musique romantique, Beethoven compris. Ce qu'il me faut, c'est une musique où l'on oublie sa souffrance, où la vie animale se sente divinisée et triomphe, sur laquelle on veuille danser, sur laquelle peut-être on digère mieux. La vie allégée par des rythmes légers, hardis, sûrs d'eux-mêmes, Offenbach, exubérants, la vie dorée par des harmonies dorées, tendres et bonnes, voilà ce que je retiens de toute la musique. Ce sont là des jugements physiologiques, non pas esthétiques. Je n'ai plus d'esthétique. Et alors, il dira, vraiment, le signe que la musique de Wagner ne vaut rien, c'est qu'elle me rend malade. Je ne la supporte pas, elle me trouble. On voit pourquoi il pouvait préférer Offenbach si effectivement une bonne musique, c'est celle qui permet d'être un peu, d'oublier les soucis de la vie, d'avoir envie de danser et de mettre dans une certaine allégresse. Un autre passage dans lequel il dit « Une expérience immémoriale nous prouve que ce qui, au point de vue esthétique, nous déplaît instinctivement, s'avère être nuisible. Dans cette mesure, le beau se situe dans la catégorie générale des valeurs biologiques de ce qui augmente la vie. » le beau, c'est ce qui augmente la vie. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait commencer par la métaphysique, enfin, j'ai cru bon de commencer par la métaphysique d'artiste. Être égale valeur, valeur égale vouloir, vouloir égale vie. Et au fond, la justification ultime, au-delà même du beau, c'est celle de l'énergie, de la santé, des bienfaits. Si bien que j'ai commencé en disant que on ne pouvait pas se mettre en position de juger la vie, que la vie n'avait pas à être justifiée, on n'avait pas à lui demander compte, des comptes, elle était un flux innocent. On peut terminer par cette affirmation, non seulement il ne faut pas juger la vie, mais c'est la vie qui nous juge. Et c'est la vie qui nous juge en donnant dans une symptomatologie, ça doit se dire, une évaluation vitale, une évaluation hygiénique des œuvres, en particulier musicales. Et ainsi, donc, la philosophie de l'art de Nietzsche est cette tentative qui peut aboutir à un art sans sujet, c'est-à-dire sans compositeur, sans auteur, parce que l'auteur, c'est encore un individu qui chercherait à parler de lui-même, qui chercherait à se justifier. Voilà pourquoi il faudrait revenir à l'enfant qui est en dessous du sujet. L'enfant, c'est l'infant, c'est celui qui ne parle pas. Infant, ça veut dire celui qui ne parle pas. Et donc, arriver à ressaisir l'élan de la vie dans un art qui soit sans sujet, sans objet et au fond sans œuvre elle-même. Si bien que devant cette affirmation de la vie dans son élan d'auto-approbation, Nietzsche peut conclure, on peut faire conclure à Nietzsche en empruntant ses propres mots, que après tout, le beau existe tout aussi peu que le vrai et le bien, parce que le beau, le vrai, le bien, c'est encore une manière d'hypostasier, c'est encore une manière d'objectiver, ce qui devrait toujours être reconduit à l'affirmation de la vie. Voilà quelques aperçus sur rapides et que vous allez m'aider à préciser sur la philosophie de l'art de Nietzsche comme jeu des apparences. Alors non pas philosophie de l'art, mais philosophie de l'artiste et philosophie de la vie, dans laquelle vous avez dû reconnaître bien des choses qui nous sont maintenant familières. Je me livre en aveugle à vos questions, mais pas en sourd.